RAE Argentine vers le monde présente 10 Argentins qui émeuvent de par le monde. Aujourd'hui, Estela de Carlotto, grand-mère infatigable. Les années de la démocratie sans proscription, qui se sont étendues de 1973 à 1976, ont connu une énorme agitation politique et sociale en Argentine. Et après des années de dictature, la participation juvénile dans la vie politique et dans les centres d'étudiants était courante. Les commandos, parapoliciers d'extrême droite, menaient déjà en 1974 des actes de violence, des meurtres, des menaces à des artistes, des scientifiques et des intellectuels. Et ils ont provoqué les premiers exils.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar.
Toutefois, le coup militaire qui a pris le pouvoir le 24 mars 1976 a institutionnalisé un commando opérationnel avec des centres de détention et d'extermination d'opposants. Dans ce contexte est née la figure du disparu et le vol de bébés nés en captivité. Estela de Carlotto vivait à La Plata, une ville à 60 km de la capitale argentine. Enseignante dans une école rurale, elle était mère de 4 enfants. L'aînée s'appelait Laura. Elle était militante étudiante dans le péronisme. À quelques mois du coup d'État, sa mère lui a signalé le danger qu'elle courait. Le conjoint de Estela avait une petite entreprise et quand sa fille a senti que le danger la guettait, il a accepté de lui prêter une camionnette pour s'éloigner de La Plata vers la ville de Buenos Aires. Les heures passaient et Laura ne donnait toujours pas de ses nouvelles. Son père, Guido Carlotto, est allé à sa recherche et il a été lui-même kidnappé. C'était le 1er août 1977, en plein hiver austral. Estela était désespérée. Les commandos lui ont exigé 30 000 dollars pour libérer son mari. Sans parler à personne de son drame, il a rassemblé billet sur billet. Quand Guido Carlotto est retourné de sa captivité, personne ne croyait ce qu'il racontait. Ainsi l'évoque Estela. Le 25 août 1977, mon conjoint a été libéré. Il pesait 15 kilos de moins. Mon mari a parlé 8 heures de suite. Il racontait la torture, les vexations. Son parcours par des hôpitaux et des commissariats à la recherche de son mari a donné à Estela un premier exercice de ce qu'elle allait devoir passer peu de temps après, avec l'enlèvement de sa fille, le 26 novembre 1977. Laura, 22 ans, était enceinte de 2 mois et demi. Laura a été détenue illégalement dans le centre clandestin appelé La Cacha, qui fonctionnait aux alentours de la ville de La Plata. Voilà ce que racontait Estela de Carlotto à des lycéens. Quand Laura, ma fille, a cessé de m'appeler par téléphone ou de m'écrire, étant à Buenos Aires avec son compagnon, je suis sorti à sa recherche. Et où suis-je allé? Où suis-je allé? Avec crainte et sans savoir que faire. Je suis allé voir les gens de pouvoir, l'évêque, l'archevêque de La Plata, Monseigneur Plaza. Je suis arrivé jusqu'au général Vignone, qui alors était secrétaire de la junte. Je lui ai demandé qu'il la mette à disposition du pouvoir exécutif, qu'il ne la tue pas. Il m'a dit, « Madame, faut le faire. » Et dans ce qu'il y avait à faire, la mort était implicite. Cette nouvelle étape de sa vie l'a décidé à prendre sa retraite dans l'enseignement et chercher sa fille. Estela s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas rester seule. Elle s'est unie à un groupe de femmes qui souffraient la même situation et avaient commencé à se battre ensemble en avril 1977 pour localiser leurs fils et petits-fils. Voici l'origine des mères de la Place de Mai et de ce que seraient ensuite les grands-mères de la Place de Mai, l'association humanitaire dont Estela serait la présidente. Les mères et grand-mères de la place de Mai ont choisi un symbole qui identifie la probité et l'éthique dans la recherche de la vérité. La couche blanche de leurs fils et petits-fils, pliée sur la tête et attachée comme un mouchoir. Le mouchoir blanc des folles de la place. Ils mentent. Ça fait 2 ans que nous sommes ainsi. Ma fille était enceinte de 5 mois. Mon petit-fils doit être né en août. Nous voulons savoir où sont nos enfants, vivants ou morts. Nous ne savons pas s'ils sont malades. Désespoir, monsieur. Nous sommes allés dans des ambassades, à des ministères, des églises. Nous ne savons plus où aller. Partout, on nous a fermé les portes. Désespoir. À un certain moment, par une femme qui a été en captivité et a été libérée, la famille Carlotto a su que Laura allait accoucher en juin 1978, que si c'était un garçon, il s'appellerait Guido, comme son père, et qu'on lui avait promis que la grand-mère allait pouvoir la retirer à l'hôpital des enfants. L'accouchement, comme il a été vérifié, s'est produit à la date indiquée, mais dans une maternité clandestine montée dans l'hôpital militaire de Buenos Aires. Laura n'a pu rester avec Guido que 5 heures, après quoi il a été arraché quand elle a été transférée à nouveau à la CACH. 60 jours plus tard, Laura a été assassinée par du personnel militaire de l'air opérationnel 114. Son corps a été livré à ses parents dans un commissariat. Estella explique devant la justice italienne comment on lui a informé la mort de sa fille. Ce message a été important. Nous pensions avec joie. Laura revient. Ou bien ils vont me livrer mon petit-fils. Mais nous supposions aussi que le pire pouvait être arrivé. Qu'ils aient pu la tuer. Nous sommes allés, mon époux, un de mes frères et moi-même, pour voir quelles étaient les nouvelles. Un sous-commissaire nous reçoit dans son bureau. Il nous montre la carte d'identité de Laura. Il nous dit, vous la connaissez? Et nous lui avons répondu, oui, c'est notre fille Laura. Alors il nous a dit, je regrette de vous informer qu'elle est morte. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai senti. Je suis très calme, mais j'ai dit au commissaire, vous êtes un assassin. Elle était kidnappée. Vous l'avez tuée. Où est mon petit-fils? À partir de ce moment, Estella s'est fixé un objectif. Elle n'allait plus avoir sa fille, mais son petit-fils était vivant, et elle devait le retrouver. Plus les grands-mères œuvraient, plus elles élucidaient la vérité. Elles ont réclamé l'apparition des disparus devant les tribunaux, l'Église catholique argentine, dans les orphelinats, à la Commission interaméricaine des droits de l'homme, à l'Organisation des États américains, aux Nations unies. Elles sont arrivées à un nombre imposant. Les enfants enlevés et appropriés, nés en captivité, étaient plus de 400. Entre eux, Guido. Certains procès avançaient. Il apparaissait davantage d'informations. Mais les mères et les grands-mères ont souffert un dur revers en 1989 quand le gouvernement du président Carlos Menem a décidé de gracier tous les tortionnaires et d'en finir avec l'action de la justice. Recommencer. En 1992, s'est créée la Commission nationale pour le droit à l'identité qui a incorporé la première banque nationale de données génétiques. Ce qui permettait, et elle a permis, que les jeunes adultes qui ont des doutes quant à leur identité puissent la vérifier et confirmer de manière scientifique la localisation des petits-fils disparus. Le jour de ses 18 ans, Estella a écrit une lettre à son petit-fils. Estella explique pourquoi elle écrit la lettre à Guido. Quand Guido, mon petit-fils, a eu 18 ans, je lui ai écrit une lettre qui m'est née du cœur. Je voulais lui dire quelque chose que je ne le connaissais pas, que je n'avais jamais vu, mais que j'aimais tant. Et le souhait qu'un jour, il se réunisse avec nous. Une besogne lente, patiente, énorme des grands-mères a obtenu l'accord de divers médias pour qu'il passe un message simple et direct, orienté à la jeunesse.
Si tu es né entre 1975
et 1983 et tu as des doutes sur ton identité, approche-toi des grands-mères de la place de Mai. et les petits-fils ont commencé à apparaître. En quelques ans, 80 d'entre eux ont été identifiés. Ils ont récupéré leur véritable identité. Et Tela, pendant ce temps, rassemblait pour Guido, son petit-fils, des souvenirs de son combat. Des t-shirts des congrès internationaux et des conférences auxquelles elle a assisté, des badges, quelques objets de valeur sentimentale, avec l'illusion de les lui donner les yeux dans les yeux en prononçant son nom. En août 2014, avec 83 ans, et après avoir reçu d'innombrables prix et des honneurs en Italie, en France, à l'UNESCO, des doctorats d'université, une nouvelle a bouleversé Estela et le monde entier. Le petit-fils de la présidente des grands-mères de la Place de Mai est apparu. Une nuée de plus de 180 médias de l'Argentine et de 20 pays était présente lors de la conférence de presse, où, enfin, a été dévoilé le visage de Guido, appelé Ignacio Urban par sa famille d'adoption, résidant à Olavarría, dans la province de Buenos Aires. Le petit-fils récupéré numéro 114, Guido Ignacio Carlotto, aux côtés de sa grand-mère.
No puedo seguir cantando esta pena que apaga mi corazón. No puedo ver la luz sin desfallecer, hiriendo de piedra el camino.
Guido Montoya Carlotto donne une conférence de presse avec Estela.
Yo soy Ignacio.
Je suis Ignacio ou Guido, parce que ma grand-mère est très ferme avec cette décision. Je suis un peu secoué. Ça fait très peu de temps que tout cela s'est produit. Et je trouve admirable et magique ce qui se passe. Je voudrais que cette situation qui me touche serve un peu à fermer ces blessures ouvertes, il y a tant de temps. Et que d'une certaine manière, j'ai la chance de faire partie de ce petit processus de cicatrisation.
Pequeño proceso de cicatrización.
Quelques mois plus tard, le pape François a reçu Estela et Guido Montoya Carlotto au Vatican. À cette occasion, la présidente des grands-mères a réitéré son appel pour que l'Église catholique ouvre ses archives pour que soit divulgué ce qu'il savait durant ces années, et ainsi collaborer avec la vérité. Les grands-mères, dans leur lente mais incorruptible marche, ont déjà retrouvé 122 des 400 petits-fils. Et elles ont été proposées dans plusieurs occasions pour le prix Nobel de la paix. RAE, Argentine vers le monde. 10 Argentins qui secouent le monde. Estela et Carlotto, grand-mère, infatigable. Production Dario Burstin, à la technique Laura Cristaldo, Matthias Arceigor, Julian Carvalho. Et qui vous parle, Eric Domergue.